Seigneur, effectivement, ton amour est un amour sans fin, un amour sans limite, un amour sans borne, Seigneur. Et cet amour, tu nous l'as manifesté par Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons, encore une fois, au travers de ce culte, dire merci pour cet amour manifesté, cet amour déployé pour nous, pour chacun de tes enfants. Et nous te bénissons pour cela. Et nous savons que c'est aussi ton amour qui nous permet d'être présents dans ta maison ce matin, ensemble. C'est aussi à cause de ton amour que tu veux instruire, enseigner, faire grandir tes enfants. Alors Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin avec des cœurs avides de t'écouter, de rencontrer ta parole, de rencontrer ta volonté. Nous voulons te demander, Seigneur, de disposer nos cœurs afin que nous comprenions les Écritures, afin que nous comprenions ce que ton Esprit veut nous dire. Nous prions que tu chasses de nos cœurs, de ce lieu, toute confusion, toute distraction, afin que nous puissions, Seigneur, t'entendre et t'écouter. Nous te demandons, Père, que ton Esprit Saint, que ton Esprit de lumière, ton Esprit de vie, l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, soit avec nous en ces instants, et que nous puissions nous laisser conduire par lui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et pour ta bonté envers tes enfants. Amen. Amen. Oui, nous le remercions d'un cœur sincère pour son amour envers nous. Vous allez bien? Oui. Ah, pour une fois, je vous crois parce que vous souriez. Ça se voit que vous allez bien. Et effectivement, ben, c'est la période des vacances, c'est la période de l'été. Il y en a qui vont partir bientôt, il y en a qui vont partir très très bientôt. Et voilà, il y en a d'autres qui sont là. Mais nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont revenus et nous bénissons le Seigneur pour ceux qui vont partir. Mais ceux qui partent, ils laissent un trou, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on parle à ceux qui partent pour leur dire de ne pas partir. Et par amour pour nous, ils devraient décider de ne pas partir et se dire je vais quand même rester, même si j'ai prévu de partir, imaginons, aujourd'hui. Je vais quand même rester parce que je les aime. Vous êtes d'accord? Non. Bon. Alors nous restons toujours dans la série que nous avons commencée sur le chrétien mature, puisque comme on le dit depuis maintenant presque 3 ans, parce que ça fait presque 3 ans qu'on est dans ce fil, le but de Dieu avec nous, avec chacun d'entre nous, avec les enfants de Dieu, le but ultime de Dieu avec nous, c'est de faire de nous des hommes et des femmes matures en Christ. Et l'Écriture dit souvent même des hommes et des femmes parfaits en Christ. Il s'agit vraiment de cet état dans lequel, non pas nous sommes parfaits pour dire sans faille, sans défaut, mais dans lequel nous acquérons cette maturité spirituelle qui nous permet de vivre une vie qui plaît à Dieu, de faire des bons choix, etc. etc. Et pour se rappeler, on a déjà avancé, la première fois on avait dit que le chrétien mature, c'est un chrétien qui connaît la juste référence de sa foi, Jésus. Il ne prend pas comme référence un humain, un endroit, il connaît la référence, le point de mire, le panneau indicateur de sa foi. On a ensuite dit que le chrétien mature, c'est un chrétien qui sait gérer sa liberté. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas cadenassés dans des actes, dans une liberté. Non, Dieu nous donne une liberté. Et nous avons à gérer cette liberté qu'il nous donne, à vivre une vie dans laquelle nous devenons capables de faire des choix qui lui plaisent, et au travers de la liberté qu'il nous donne, de quand même être capable de se conduire en chrétien mature. On a ensuite dit qu'un chrétien mature, c'est un chrétien qui recherche ce qui édifie. Il recherche ce qui peut l'édifier lui-même, il recherche ce qui peut édifier les autres, il recherche ce qui peut édifier l'Église. Et ensuite, les 2 dernières fois, on avait dit que la préoccupation suprême du chrétien mature, la chose la plus importante pour lui, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à la volonté de Dieu et qui fait des choix, qui a comme critère d'évaluation la volonté de Dieu. C'est plus ça me plaît, ça me fait plaisir, mais c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer donc dans cette série et nous allons lire 2 passages. Le premier dans Luc, Luc chapitre 11. Luc 11, 37 à 44. Voici ce qui est écrit. Pendant qu'il parlait, un pharisien l'invita à venir manger avec lui. Jésus entra dans la maison et se mit à table. Le pharisien remarqua qu'il n'avait pas fait les ablutions rituelles avant le repas et il s'en étonna. Le Seigneur lui dit alors, « Vous, pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fou que vous êtes, est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur ? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous serez du même coup entièrement pur. Mais malheur à vous, pharisiens, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur toutes les petites herbes comme la menthe et la rue et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les sièges d'honneur dans les synagogues, vous aimez qu'on vous salue respectueusement sur les places publiques. Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. » Un deuxième passage dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er, et là, versets 23 à 27. Jacques 1, 23 à 27. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Amen. Dans le royaume de Belgique, puisque la Belgique est un royaume, on a été, ces derniers mois, on a été secoués par tout un ensemble de manifestations, de démonstrations, d'activisme, de manifestations qu'on a vues dans l'espace public. Et ça n'a pas arrêté, en commençant par les Gilets jaunes, vous vous en rappelez, ça fait quelques mois maintenant. Et puis il y a eu les jeunes pour le climat qui ont séché les cours pour aller défendre la cause du climat. Et ensuite on a eu les combats politiques, toute cette campagne politique dans laquelle chacun défendait son opinion. Et on n'arrête pas, on est encore dedans, il n'y a pas encore de gouvernement formé, on ne sait pas trop où on va. Et si vous avez déjà vu ces manifestations, vous avez certainement déjà entendu une question qu'on pose souvent en ce qui concerne les manifestations, c'est qu'on se demande toujours, ces gens-là qui manifestent, est-ce qu'ils se battent contre quelque chose ou est-ce qu'ils se battent pour quelque chose ? Quand on parle des Gilets jaunes par exemple, est-ce que les Gilets jaunes se battent contre le gouvernement ? Ou est-ce qu'ils se battent pour un meilleur avenir, un meilleur emploi, un meilleur pouvoir d'achat ? Quand on parle des jeunes qui manifestent pour le climat, on dit est-ce qu'ils manifestent contre le système tel qu'il est fait aujourd'hui, le système, le fonctionnement de la société aujourd'hui, ou est-ce qu'ils manifestent pour un autre système ? Quand on parle des campagnes politiques, on peut se demander, certains partis, est-ce qu'ils se battent pour leurs idées ou contre les autres partis ? Alors évidemment, pour toutes ces questions-là, à chaque fois, on doit répondre un peu oui des deux. On se bat toujours un peu pour quelque chose et contre autre chose. Et alors, dans le texte de Luc qu'on a lu, on a un épisode, comme on en a beaucoup dans les Écritures, où Jésus est en train de réprimander les pharisiens. Vous avez certainement déjà vu beaucoup de fois Jésus qui réprimande les pharisiens et qui est très très sévère avec eux. Il utilise des mots très durs et il les accuse, il pointe leurs manquements, il pointe leurs égarements. Et très souvent, dans l'Église, on s'imagine que Jésus n'aimait pas les pharisiens. On pense que Jésus détestait les pharisiens et que c'est pour ça qu'il passait son temps à leur parler aussi méchamment. Et c'est des choses qu'on entend, on dit « Ouais, de toute façon, Jésus, c'était un ennemi des pharisiens, il les aimait pas, il les supportait pas. » Et voilà, et on s'imagine que le combat de Jésus, c'était un combat contre les pharisiens. En fait, pas du tout. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que le combat de Jésus, la raison pour laquelle Jésus était si sévère avec les pharisiens, c'est parce qu'il voulait restaurer en Israël, ou en tout cas, il voulait apporter un enseignement pour restaurer la foi authentique. Une façon de s'approcher de Dieu, de vivre la foi, de pratiquer notre relation avec Dieu, qui soit authentique, qui soit juste, qui soit vrai, qui soit dénué des grimaces, des faux-semblants, de toute cette façon de faire qui touche aux apparences, pour restaurer une foi et une piété authentique. Lorsque Jésus parle avec méchanceté, ben, c'est pas de la méchanceté, mais pour nous on peut le voir comme ça, dans Luc 11, aux pharisiens, et qu'il leur dit « malheur à vous, parce que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça », son combat, c'est pas de leur faire mal, c'est pas de les détruire, mais c'est d'exprimer au travers de son enseignement et au travers de ses paroles que Dieu attend de son peuple, attend de ses enfants, une piété, une foi qui soit authentique, une vraie foi. Un vrai attachement à Dieu, des pratiques de foi, des pratiques spirituelles qui soient vraies, qui soient justes. Il voulait interpeller les hommes de son temps sur l'importance de vivre une piété authentique, un attachement à Dieu qui soit véritable. Ce que Jésus veut faire, c'est purifier la foi de son temps, et par extension la nôtre, de tout ce qui dénature la foi, de tout ce qui étouffe la vraie foi, pour nettoyer la foi de tout ce qu'elle a d'impur, de tout ce qu'elle a de surfait, de tout ce qu'elle a de faux, tout ce qu'elle a d'inconvenant. Vous voyez, Jésus est venu pour non seulement, oui, sauver, mais pour aussi apporter un enseignement qui restaure une foi, une vraie foi. Et évidemment, les pharisiens étaient le prototype de ceux qui étaient dans une foi hypocrite, une foi de faux-semblants, une foi de paraître. Et c'est la raison pour laquelle c'est surtout à eux qu'il s'adresse. En fait, ce que Jésus veut faire, c'est combattre ce qu'on pourrait appeler la piété superficielle. La piété superficielle, l'engagement envers Dieu qui est superficiel. Une piété qui est d'apparence, qui n'a pas de profondeur, qui n'a pas de vérité, qui n'a pas de pureté, qui n'a pas de réalité. Une piété de surface, une piété superficielle. Jésus veut ramener chacun à une foi authentique, une piété véritable, une vraie connexion à Dieu. Terminer le cinéma, les grimaces. Hein, Natacha n'aime pas les grimaces. Le cinéma, tout ce cinéma, tout ce machin-là. Parce qu'elle vient dans la ligne droite de Jésus, avec la même mission. Vous voyez, Jésus voulait restaurer une foi authentique. Il voulait des gens qui soient vrais, qui marchent dans la vérité, et qui vivent une relation avec Dieu qui soit authentique. La piété, c'est un mot que vous avez certainement déjà entendu, la piété, c'est la façon avec laquelle les hommes veulent honorer Dieu. C'est les pratiques au travers desquelles les humains honorent. Alors, la piété, il n'y a pas que la piété biblique, il y a la piété des musulmans, la piété... Donc, ce sont les pratiques que les croyants mettent en place pour honorer Dieu, pour manifester dans des actes concrets, dans des pratiques concrètes, le respect envers Dieu. La piété, concrètement, c'est ce que l'on fait pour Dieu. D'accord ? Et donc, la piété, mais c'est les disciplines spirituelles, c'est la prière, la jeûne, etc., etc., la lecture de la parole, tout ça, c'est ce que l'on met en place par honneur pour Dieu. Et au temps de Jésus, la piété était une piété qui manquait d'authenticité, qui manquait de vérité, qui manquait de profondeur. Et c'est ce que Jacques appelle dans Jacques, qu'on a lu, la fausse religion. La fausse religion. Alors, vous tous, en bon évangélique, qui avez été enseigné par Maître Gino, vous dites, mais c'est pas, on n'est pas dans une religion, nous. C'est pas une religion. On n'aime pas ce mot-là, hein, vous n'aimez pas le mot religion. Mais en fait, justement, le mot religion, dans le texte ici, c'est un synonyme de piété. C'est justement les choses, la religion, c'est les choses que l'on met en place pour honorer Dieu, pour servir Dieu, pour manifester à Dieu notre amour, notre attachement, notre respect envers Dieu. Jésus veut nettoyer la foi, il veut chasser la superficialité, la foi de façade, la foi de faux-semblant. Alors cette fausse religion, cette fausse piété, cette piété qui n'est pas authentique, elle peut résulter soit carrément de formes fausses de la foi, ou alors elle peut résulter de formes infantiles de la foi. Ça veut dire qu'on peut être, on peut manquer d'authenticité, de vérité dans notre engagement envers Dieu, soit parce qu'on est carrément, tout simplement, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui a un engagement envers Dieu qui n'est pas un engagement réel, un engagement authentique. Soit on peut aussi avoir des traits de cette fausse piété parce qu'on est encore à un stade infantile de la foi. On est encore au début de sa vie chrétienne, de sa vie de croyant, et on a encore dans sa façon de faire des éléments qui sont des éléments de la foi infantile, la foi des bébés, la foi des nouveaux croyants, la foi de ceux qui commencent. Et dans la maturité, puisque c'est ça le thème, Dieu nous appelle justement à nous débarrasser de ce qui appartient aux formes infantiles de la foi, aux formes des débutants de la foi, pour entrer dans une piété toujours plus authentique, toujours plus vraie devant Dieu, toujours plus profonde, qui va toujours plus loin, qui va toujours dans les plus grandes profondeurs de notre être. La maturité, elle implique que nous laissions les choses qui appartiennent au stade de l'enfant pour entrer dans le monde des adultes, dans la façon de vivre des adultes. On sait tous que les enfants, ils ont des marques qui sont des traits de leur enfance. Il y a des traits spécifiques de l'enfance. Et alors, en psychologie, il y a ce qu'on appelle l'infantilisme psychique. Ce sont des adultes, mais qui gardent encore des traits de l'enfance, des traits de la jeunesse. C'est par exemple des gens qui ne savent pas construire sur le long terme, qui ne savent pas construire une vie sur le long terme. Ça va être des gens qui sont très, très égocentriques. Vous savez qu'un enfant est égocentrique. Ce n'est pas méchant de dire ça, mais c'est-à-dire que l'enfant, il voit ses besoins, il voit... Et donc, ce sont des gens qui grandissent, qui deviennent des adultes, mais qui, au travers de différents éléments, n'entrent pas dans la vraie maturité, dans la vraie façon de vivre des adultes. On peut, comme ça, ne pas grandir et garder des choses de la foi infantile. Par exemple, on sait que les enfants, ils vivent, on appelle ça l'animisme de l'enfant. Ça veut dire que pour l'enfant, les objets sont animés, les objets ont une volonté. Et donc quand un enfant, entre 2 et 4 ans, va se cogner le pied contre la table, il va disputer la table. Hein? Vous n'avez jamais vu ça? Il va disputer, il va dire c'est pas bien. Et alors les parents vont rajouter, ben oui, la table est méchante, elle ne peut pas te frapper. L'enfant, pour lui, la table a voulu lui faire du mal. Ça, c'est un trait de l'infantilisme, du stade enfant. Et spirituellement, c'est la même chose. On peut, comme ça, soit être complètement dans des formes de piété qui soient complètement fausses, ou alors dans des formes encore infantiles de la foi, une façon de vivre la foi qui est encore infantile, qui n'a pas encore atteint la maturité. Alors on va voir quelques exemples, mais rapidement, enfin non pas rapidement parce que c'est les vacances. Vous avez le temps. On va prendre son temps ce matin. On est d'accord ? On ne va pas se presser. On se presse tout le temps pendant l'année. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on se presse. Et on va prendre des exemples de la foi infantile ou de la fausse religion, comme dit la Bible. Par exemple, c'est le traditionnalisme. Le traditionnalisme. Traditionnalisme, c'est le fait de répéter des traditions sans savoir pourquoi. D'être attaché à des traditions sans avoir aucune idée de pourquoi on les fait, mais on répète des traditions comme ça, sans réflexion, sans engagement. Voilà, on prend la Sainte Cène comme une tradition. Voilà, bah, c'est tous les dimanches la même chose. Et puis après, le président, il se lève et puis il dit on va te donner un chant. Et puis il appelle Rose et puis il appelle un tel. Et puis on se lève et puis on prend le machin et puis on prend l'autre. Et puis voilà. Voilà. Et puis après, c'est les offrandes. Et puis il y a l'autre sale nul qui vient parler pendant 45 minutes et on en a ras-le-bol. Voilà, bon, vous voyez, hein, c'est une tradition, quoi. On entre dans des traditions et on n'est plus. On ne comprend plus le sens de la chose, mais on l'a fait juste par tradition. On vient à l'église sans savoir pourquoi, sans vouloir honorer Dieu, mais on y vient parce qu'il faut y venir. On va, avant de manger, on va fermer les yeux 2 minutes pour dire que bon, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, mais sans vraie reconnaissance dans le cœur. Voilà, on dit bon, allez, il faut bien qu'on ferme les yeux parce que sinon, on va passer pour des faux croyants. Mais on n'a pas au fond de son cœur réellement un moment où on se dit merci Seigneur pour ce repas parce qu'il y en a d'autres qui manquent et que c'est une grâce. Et en plus, vous savez qu'il y a deux stades dans le remerciement pour la nourriture. On peut remercier Dieu parce qu'on a de la nourriture, mais nous, enfin vous, la plupart d'entre vous, vous remerciez Dieu non seulement parce que vous avez de la nourriture, mais en plus de la nourriture que vous aimez. C'est une double grâce. Manger, c'est déjà une grâce. Et la plupart, vous tous là, qui regardez en faisant semblant de rien, vous mangez des choses que vous ne cuisinez pas, des choses que vous n'aimez pas. Et vous avez le choix de choisir les choses que vous aimez. Il y en a d'autres qui mangent tous les jours la même chose, et aimer ou ne pas. Soit, pour dire, ça c'est le traditionnalisme, c'est faire les choses par tradition. Alors, attention, parce que les évangéliques aussi n'aiment pas la tradition. Les traditions, oh ouais, mais ça c'est des traditions, comme si nous vivons tous dans des traditions. Les églises vivent dans des traditions. La tradition, ça fait partie de la vie, ça n'a rien de mauvais. Le problème de la tradition, c'est lorsqu'elle s'oppose à la parole de Dieu, ou lorsqu'on l'a fait sans comprendre pourquoi on l'a fait. Commencer le culte à 10h, c'est une tradition. La liturgie du culte, faire ça et puis ça, ce sont des traditions. Les assemblées générales, ce sont des traditions, tout ça. La tradition n'a rien de mauvais dans la Bible. La tradition, le problème, c'est quand elle annule la parole de Dieu, ou lorsque les hommes la font sans s'en rendre compte. Le traditionnalisme, le ritualisme, ou on appelle ça aussi le formalisme. Le ritualisme, c'est à peu près la même chose. Ça consiste à faire les choses par formalité sans que le cœur soit engagé. Sans que le cœur soit engagé. C'est être attaché à des rites, mais les faire sans que le cœur suive derrière. Et c'est ce que Jésus reproche justement dans Luc 11. Vous faites très attention à bien nettoyer vos ustensiles, parce que ça doit être propre, mais au fond, vos cœurs sont sales. Vous ne comprenez même pas le sens de nettoyer l'extérieur, parce que votre intérieur est sale. Le ritualisme. Et vous savez que Jésus aussi a parlé lorsque les pharisiens reprochaient aux disciples de ne pas se laver les mains. Et Jésus va leur dire, vous savez, ce qui rend l'homme sale, c'est pas tellement... Enfin, non, c'est plus dans la nourriture. C'est pas tellement ce que l'homme mange, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Vous voyez, on est attaché à des rites, mais pas à la profondeur. Et on dit, ça c'est important, ça il faut vraiment que... Ah oui, la chaise doit être comme ça, les chaises doivent... Mais derrière, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas une vraie consécration. Le pharisaïsme. Alors là, le pharisaïsme, c'est le fait de pratiquer la foi pour être vu. Pour être vu, c'est claironner sa foi. Et ça, c'est ce que Jésus le reproche aussi. Hein. C'est avoir une piété, mais une piété qui a pour but d'être vu. Il faut qu'on sache que je prie, il faut qu'on sache que je donne de l'argent aux pauvres, il faut qu'on sache que je sers le Seigneur, il faut que ça se voit. Et je choisis des façons de faire qui vont aider à ce qu'on voit que oui, ben voilà, moi je fais, et voilà. C'est l'auto-glorification. On aime se montrer, on aime montrer qu'on fait quelque chose ou qu'on sert Dieu. Le pharisaïsme, c'est aussi attaché au culte des apparences. On est très attaché aux apparences. Hein, essayer de bien se montrer, bien se montrer. Il faut vraiment que je sois parfait, que tout soit bien, et que je paraisse comme un bon chrétien. Et très souvent, les nouveaux croyants, ils sont encore un peu dans cette forme infantile. Hein, ils s'imaginent qu'ils doivent faire le chrétien. Hein, voilà, bon, je vais essayer de bien parler, de pas. Hein, sinon, on va penser que, oui, on est attaché à l'apparence, au culte de l'apparence, et je vais me mettre comme ça, et je vais pas. Voilà. L'apparence, mais pas le fond. Le culte de l'apparence. Il faut que je parle comme un chrétien, il faut que je m'habille comme un chrétien. Et c'est déjà ce que l'apôtre dit à Timothée. Il dit, il y a des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui auront renié ce qui en fait la force, dit-il. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ce qui en fait la force. Donc c'est avoir une piété dans laquelle on paraît, mais au fond, il n'y a rien de bien profond. Le sentimentalisme aussi. Le sentimentalisme, c'est avoir une foi qui est constamment dépendante de nos émotions, de comment on se sent. Ça, c'est un trait caractéristique de la forme infantile de la foi. Quand je me sens bien, je loue Dieu. Quand je me sens bien dans mon corps, ben oui, alors voilà. Ou alors j'ai toujours besoin d'une bonne musique pour adorer Dieu. J'aime bien cette musique-là, mais cette musique-là, je ne saurais pas adorer Dieu là-dessus. Donc on est très attaché à ses émotions, à ses sentiments, à comment on sent, plutôt que réellement à la profondeur de la relation avec Dieu, de sa gloire. Donc c'est très attaché à des émotions. Je vis ma vie spirituelle selon mes intuitions, ce que je sens, ce que je ne sens pas, sentimentalisme. Notre forme infantile de la foi, c'est l'intellectualisme. C'est placer sa confiance dans ses connaissances bibliques, par exemple. Alors, je connais beaucoup de versets, et l'Écriture, et voilà, et Jean, et Marc, et Matthieu, et voilà. Et donc, on se complaît dans l'intellectualisme, dans le fait qu'on connaît des choses. Et cette connaissance, on la prend pour gloire. Une forme infantile de la foi. Et parmi les enfants de Dieu, souvent, cette connaissance, cette bonne doctrine qu'on pense avoir intellectuellement, souvent elle est détachée du cœur. On connaît beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément un cœur très engagé. On n'est pas forcément très volontaire, pas forcément très impliqué. Mais voilà, on est. Et alors, souvent on utilise cet intellectualisme, cette supériorité intellectuelle biblique pour mépriser les autres, hein, pour dire oui, ben ouais, les autres. Hein, oui, dans ces églises-là, ils parlent en langue, il n'y a personne qui interprète. Comme si, bon, ils ne valent rien. Quoi. Oui, on prend les choses intellectuelles, doctrinales, comme supériorité, voyez. Et on s'imagine que justement, parce qu'on connaît ou parce qu'on est dans la bonne doctrine, on est supérieur à d'autres. Et vous voyez un petit peu, on a ces formes de sentiments de supériorité que l'on sent dans l'Écriture. Vous vous rappelez de Jésus qui donne cette parabole du pharisien qui dit « Mais moi, je prie deux fois par jour, cette petite dame-là. » Voyez, donc on utilise des éléments pour se croire supérieur. Le problème, ce n'est pas que la bonne doctrine, elle est importante, elle est essentielle. Le problème, c'est de placer sa confiance dans la connaissance, dans ce qui est intellectuel, et que ça n'aille pas plus loin. L'intellectualisme, souvent, ça va nous amener à mettre Dieu en boîte, comme on dit. Mettre Dieu en boîte, c'est... Dieu doit toujours rentrer dans les limites de mon intelligence. Donc, Dieu ne peut jamais faire des choses que moi, je ne conçois pas. Il doit toujours être dans ma boîte à moi. Vous voyez, c'est une forme infantile de la foi. Il y a des chrétiens qui disent « Tous les miracles que Jésus a fait dans la Bible, on peut les voir aujourd'hui. Mais ceux qu'il n'a pas fait, on ne peut pas les voir aujourd'hui. » Donc, si ce n'est pas écrit que Jésus a fait ce miracle-là, ce n'est pas un miracle valable aujourd'hui. Voilà. Alors que Jésus a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. » Mais vous voyez, Dieu doit toujours rentrer dans... Non, Dieu fait ça, mais ça, il ne fait pas. Vous voyez, on limite Dieu à notre intelligence, à notre capacité intellectuelle, à notre raisonnement intellectuel. Une autre forme inventive de la foi, c'est par exemple le légalisme. Le légalisme, c'est quand on est très attaché aux lois, aux règles. Tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas... Attention, oui, tu dois faire comme ça, et t'habiller comme ça. Et donc, en fait, on a une foi qui est uniquement écrasée par des règles, par des lois. Et alors, la loi, les règles, passent au-dessus de Dieu et au-dessus des besoins des humains. C'est exactement, le légalisme, c'est l'exemple parfait de ces pharisiens qui estimaient qu'on pouvait laisser l'âne mourir parce que c'était le jour du Seigneur. Ben voilà, ben non, c'est le jour du Seigneur, c'est la loi. Ah non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la règle. Mais on ne voit pas pourquoi la règle a été mise et il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de compréhension du plan de Dieu. On est juste enfermé dans des grands principes, dans des lois qu'on veut respecter. Vous voyez que dans Matthieu 23, et c'est même le texte qu'on a lu, Jésus leur dit, vous donnez beaucoup d'importance à la dîme, au cumin, ces choses-là, mais vous négligez le jugement, la miséricorde et la fidélité. Or, c'est ces choses-là qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Vous voyez, le légalisme, c'est... Il y a des églises légalistes, il y a des milieux dans lesquels il y a des règles. Et il y a des règles et on vit dans des règles. Pas dans une relation avec Dieu, pas dans une connaissance de Dieu, pas dans une transformation intérieure qui nous fait comprendre le plan de Dieu, mais dans des règles. Et notre foi se définit comme ça. Tu ne peux pas, tu peux. Et la pire des formes du légalisme, c'est quand on s'imagine que respecter la loi peut nous attirer la justice de Dieu. Ça, c'est la pire des formes. Mais donc, on est attaché à des lois, à des principes. Une autre forme de la foi infantile, c'est l'activisme. L'activisme, c'est je fais plein de choses, mais je ne m'interroge pas sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu, et je suis déconnecté quelque part de ce que Dieu veut vraiment. C'est l'exemple de Marthe et Marie. Il y en a une qui est très occupée, elle fait plein de choses, mais elle n'est pas auprès de Jésus. Je sers beaucoup le Seigneur, mais je n'ai pas de relation avec Dieu. Je fais beaucoup de choses, mais je n'ai pas d'intimité avec le Seigneur. Donc, je fais, mais sans profondeur, sans connexion, sans intimité, sans écoute, sans contemplation, sans être vraiment connecté, Je vous ai déjà donné l'exemple de, l'exemple du ventilateur. Vous le connaissez cet exemple-là, je l'avais déjà donné. Soit vous n'écoutez pas de toute façon, donc vous ne savez pas ce que j'ai déjà dit, soit, mais le ventilateur, l'activisme c'est ça, c'est que je fais, mais sans être connecté. Et vous voyez, le ventilateur, quand il tourne et qu'il est branché, il tourne. Quand vous le débranchez, il continue encore un peu à tourner avant de s'arrêter, il ne s'arrête pas tout de suite. Vous voyez, on peut être comme ça avec le Seigneur, on est débranché, mais on continue à tourner, ça y est, ça continue à jouer, mais pas de connexion, d'intimité, pas de connaissance de Dieu, pas de profondeur. Une forme infantile de la foi, c'est évidemment attaché à cette façon de faire des pharisiens, c'est le jugement des autres. Il y a des gens qui construisent leur foi chrétienne contre. Non, moi je ne suis pas des frères, hein, moi je ne suis pas de ces gens-là. Je ne suis pas pentecôtiste, hein, moi, attention. Oui, donc on se définit contre les autres, par comparaison. Ou alors aussi, une forme infantile de la foi, c'est la dénonciation. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui croient toujours qu'ils sont là pour dénoncer ce que les autres ne font pas bien. Donc, ah oui, mais t'as vu un tel. Alors que la fierté authentique, c'est moi d'abord. Hein, comme Jean-Paul me disait une fois, et j'aimais bien quand il me disait ça, il me disait, la parole c'est pour moi d'abord, pas pour l'autre. Oui, ça c'est une tendance un petit peu de la forme infantile des bébés de la foi. C'est, mais t'as vu, il a fait un tel. Mais on ne s'intéresse pas à soi et on ne vit pas ça personnellement. On juge les autres et leur rythme. On estime qu'ils ne sont pas assez vite des grands chrétiens. Non, t'es pas encore. Enfin, il devrait quand même, depuis le temps qu'il est là, il devrait. Hein, voilà, donc on se pose comme juge du rythme des autres, de la foi des autres, de la croissance des autres. Ou alors, on aime rester avec les gens de notre rang. On ne se mélange pas. Nous c'est autre chose. Nous, comme dirait Damien et. Nous, c'est le mécanisme de l'horloge. Ce n'est pas eux qui le disent, mais ils répètent. Nous, non, non, nous, non. Nous, c'est la juste doctrine. Mais vous avez des milieux comme ça, ça tend au sectarisme, vous savez. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, nous, la juste doctrine, c'est nous. Ah, voilà, nous, moi, j'enseigne la Bible, la parole, et les autres. Oui, donc, et alors, on prend ça comme supériorité. On ne se mélange pas avec les moins importants. On ne se mélange pas avec les collecteurs d'impôts. On ne se mélange pas avec les prostituées. On ne se mélange pas avec les samaritains, ces gens-là. Parce que nous, c'est la vraie foi, nous. Vous voyez ? Alors que c'est ces gens-là qui ont besoin d'être auprès d'un enfant de Dieu. L'hypocrisie. L'individualisme. On vit une foi individuelle. En dehors du corps, en dehors de l'Église, en dehors du peuple de Dieu, on vit sa foi tout seul. L'humanisme aussi, c'est une forme infantile de la foi. C'est le chrétien qui ne voit que ses besoins. Donc c'est l'homme au centre, c'est ça l'humanisme. L'homme au centre. Il y a le bon humanisme, comme on l'entend dans la société, mais spirituellement, l'humanisme, c'est un culte dans lequel on ne rend pas gloire à Dieu, mais on est juste là pour nos besoins. Seigneur, bénis-nous, et Seigneur. Et alors, on perd de vue qu'on est d'abord là devant lui, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur. Alors, le sectarisme, hein, comme on l'a dit, qui a aussi été manifesté dans Actes. Moi, je suis pour Paul. Moi, je suis pour Apollos. Moi, je suis pour tel serviteur. Moi, je suis... Ah non, moi, je ne suis pas de ces gens-là. Hein, Chez nous, la louange, c'est bien. Chez nous, la louange est biblique. Vous savez des chrétiens qui parlent comme ça à d'autres chrétiens, hein. Parce qu'ils estiment que la louange chez les autres n'est pas comme il faut, ils leur parlent comme ça. Chez nous, la louange est biblique. C'est sobre. Comme si tous les autres qui font différemment sont tous des imbéciles. Vous voyez ? C'est ça la foi superficielle. C'est ça la foi que Jésus veut purifier. Et faire de nous des chrétiens authentiques qui sont libérés du traditionnalisme, du ritualisme, du sentiment de supériorité, de vouloir juger les autres, de se croire pour des super religieux et qui entrent dans une relation intime, personnelle avec Dieu, véritable. Ce que dans le texte on appelle la vraie religion. Alors la vraie religion, en quelques temps, en quelques points, rapidement. Donc encore une fois, la vraie religion, c'est pas pour dire qu'on est dans une religion. Évidemment que la foi chrétienne, c'est une relation avec Dieu, c'est un vrai salut, c'est pas une religion. Mais ici, religion, c'est dans le sens de la piété. Hein, okay. Jacques 1 dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves. Première caractéristique d'une vraie piété, de la vraie piété dans laquelle Dieu veut tous nous voir entrer, pour délaisser les formes infantiles de la foi. Premièrement, la vraie piété, c'est une piété devant Dieu. On pourrait dire ça comme ça, devant Dieu. C'est-à-dire, c'est une piété dans laquelle chacun d'entre nous se présente devant Dieu. Pas pour les autres, pas pour être vu, pas par rapport aux autres, mais devant Dieu. Moi, devant Dieu. Moi, face à Dieu. Une piété, un attachement à Dieu qui soit moi vers Dieu. 1 Timothée 1, verset 5 dit... Le but du commandement qu'il vient de donner, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Une foi sincère, devant Dieu. Je vis ma foi devant Dieu, je vis ma spiritualité devant Dieu, ma piété devant Dieu, je le fais pour Dieu, face à face avec Dieu. Pas pour les autres, pas contre les autres, pas pour être vu. Je vis ma spiritualité devant Dieu, mon cœur devant Dieu. Une citation, quelqu'un qui dit « Le cœur est le repli le plus profond, le plus intime de notre être, le siège de la vérité absolue, où tous les masques et les faux-semblants sont ôtés. Le cœur est le lieu où demeure la véritable personne. » La vraie personne, elle est dans le cœur. Et donc, l'engagement envers Dieu, c'est un engagement du cœur devant Dieu. Devant Dieu. C'est une position dans laquelle le croyant vit sa foi devant Dieu, sous son regard, en recherchant son approbation. Une piété qui est dénuée de la volonté d'impressionner, d'être vue, d'être approuvée, mais motivée uniquement par le regard de Dieu. En fait, c'est un positionnement d'authenticité. Moi devant Dieu, moi face à Dieu, moi pour Dieu. C'est devant Dieu que je me présente quand je prie. C'est devant Dieu, sous son regard, que j'apporte mon offrande. C'est devant Dieu que je sers dans l'Église. C'est devant Dieu que je réfléchis. C'est comme répondre à la question « Qui es-tu quand personne ne te voit ?» C'est ça la question, l'authenticité. Qui est-ce que je suis quand personne ne me voit ? Quand personne ne peut me dénoncer ou qui est-ce que je suis dans l'intimité ? Devant Dieu. C'est devant Dieu que je parle. Je prends conscience que Dieu veille sur mes paroles, qu'il entend mes paroles. C'est devant Dieu que je jeûne, pas pour les autres, pas pour qu'ils me voient. C'est devant Dieu que je m'engage. Quand je m'engage dans l'église, c'est face à Dieu, c'est par rapport à Dieu, c'est envers Dieu. C'est devant Dieu que je gère mon argent. Je suis conscient que ce sont ses biens qu'il me donne afin que je les gère. Premièrement, le chrétien mature, il vit une spiritualité devant Dieu. Sa piété devant, c'est ça une piété authentique, devant Dieu. Alors ça ne veut pas dire que c'est une piété en dehors de l'église ou en dehors de la soumission mutuelle que nous nous devons, mais c'est une piété dans laquelle le chrétien mature est débarrassé de la contrainte du regard des autres, et c'est dans le secret de l'intimité avec son Père qu'il vit, dans l'intimité avec Dieu qu'il vit. Et il grandit là-dedans, et il cherche l'approbation de Dieu. Deuxièmement, une deuxième caractéristique de cette piété authentique, profonde, réelle, c'est un engagement holistique. Un engagement holistique, c'est un engagement intégral. Quand on dit quelque chose d'holistique, c'est quelque chose qui comprend toutes les parties d'une chose. Donc, c'est un engagement dans lequel tout notre être est engagé. Tout notre être. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait montré l'importance, et c'est des choses qu'on entend souvent, et parfois on ne s'y arrête pas, l'importance que ce soit tout ton être, pas juste des parties, tout ton être. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous voyez comment est-ce qu'on parle là ? C'est holistique, c'est tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, c'est tout, c'est entier. Implication donc dans la foi de notre intelligence, de notre cœur et de notre volonté. Pas seulement une partie, mais tout. L'intelligence, le cœur, la volonté, la force. Tout ça donné à Dieu. Le cœur d'abord. Ça doit venir du cœur, de l'intérieur. Transformation de l'intérieur, profonde. C'est un engagement donc de tous les aspects de notre vie aussi. Donc c'est vraiment une piété dans laquelle on ne réserve pas des aspects à Dieu, mais on essaye. Et c'est une marche, évidemment, hein. C'est pas du jour au lendemain, mais on essaye, on apporte à Dieu tous les aspects de notre vie. Notre travail, nos activités sociales, notre prière, notre service, notre vie de famille, notre vie de couple, nos travaux manuels, intellectuels, nos loisirs, nos épreuves, nos vacances, pour ceux qui vont partir en vacances, aujourd'hui. Je sais pas s'il y en a, non, il n'y en a pas. Bon. Alors, non, ils partent aujourd'hui, il faut que je taquine un peu, sinon ils vont rester là-bas, ils ne voudront pas revenir. C'est donc le chrétien qui n'est pas juste un intellectuel. Il y a trois grands types de chrétiens. Le chrétien intellectuel, le chrétien volontaire et le chrétien affectif. Le chrétien intellectuel, lui, il connaît beaucoup de choses. Mais son cœur n'est pas forcément engagé. Et il n'est pas forcément volontaire. Il y a des chrétiens, il n'y en a pas ici, mais il y a des chrétiens qui ont toujours des grandes idées pour l'Église, mais qui ne sont jamais là quand il faut faire quelque chose. Ah oui, mais ce serait quand même bien qu'on fasse ça et qu'on fasse ça. Oui, mais bon. Intellectuel. Il y a le chrétien volontaire. Il fait beaucoup de choses. Mais derrière, il n'y a pas forcément un vrai engagement pour Dieu et une vraie connaissance des Écritures, par exemple. Parce qu'on a besoin de tout. On a besoin de connaître les Écritures, d'avoir un cœur engagé et d'être dans l'action, de faire ce que Dieu nous appelle à faire, de participer. Alors le chrétien affectif, lui, il a un cœur bouillant. Mais il ne connaît pas forcément les Écritures et parfois, il devient un peu un contemplatif passif. Donc il aime Dieu, mais il le contemple. Il y a la journée des travaux bientôt. Oui, mais moi je contemple. Oui, mais bientôt, je contemple. Vous voyez donc, il manque quelque chose dans son engagement. Et donc, ça veut dire que, quand on dit un engagement holistique, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie qui surchauffe et les autres qui dorment. Il ne faut pas être soit un grand intellectuel de la foi, ou un grand volontaire, ou un grand affectif. Il faut apporter tout. Troisièmement, une autre caractéristique de la piété authentique, c'est une piété de la mise en pratique. C'est une piété de la mise en pratique, justement. et on l'a lu dans Jacques, vous l'avez lu, hein, dans Jacques, comment est-ce qu'il parle de l'importance de ne pas seulement écouter, mais aussi de mettre en pratique. Donc le chrétien qui entre dans cette piété authentique, il veut mettre en pratique, il ne veut pas seulement écouter, il veut mettre en pratique, il veut faire la volonté de Dieu. C'est Luther qui disait, la Bible ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre. La Bible ne contient pas des mots à lire, mais des mots à vivre, à pratiquer, à mettre en pratique. Troisièmement, le chrétien qui est dans cette spiritualité authentique, il donne priorité à l'amour du prochain et à l'amour pour Dieu. L'amour du prochain à l'amour pour Dieu. D'abord, avant tout. Et on connaît les enseignements de Jésus. Et Romains 13, 10 dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. » L'amour est l'accomplissement de la loi. Ça, c'est vraiment spirituel. Quand l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, c'est le plus important. Le plus important. Et alors, dans les milieux chrétiens, justement, comme on en parlait tout à l'heure, il y a cette tendance parfois qu'on a, justement parce qu'on aime bien les grandes questions doctrinales, les théologiens, les pasteurs aiment bien se disputer sur des détails doctrinaux, mais quand vous, parfois vous écoutez un débat, même entre chrétiens, il n'y a plus d'amour. Il y a des sujets comme ça, quand on en parle, il n'y a plus d'amour. Tout de suite, vous voyez les chrétiens qui changent de couleur et on ne sait plus parler avec amour. Parce que la doctrine est plus importante que l'amour. Ou alors on est des chrétiens très spirituels. Ta présence. Et comme dit Jacques, après il y a un chrétien nu derrière, mais ça on s'en occupe pas parce que c'est je suis dans la présence de Dieu. Il me remplit, il me comble. Ben oui, mais vous voyez, 1 Corinthiens 13 nous montre que la maîtrise des langues des hommes et des anges est vaine sans amour. La prophétie sans amour est vaine. La foi sans amour est vaine. L'aumône, la générosité, la libéralité sans amour est vaine. Le sacrifice de soi, le martyr est vain sans amour. Et j'avais déjà parlé à plusieurs reprises de cette grande maxime de Jean de la Croix. Écrivez-la sur vos frigidaires, hein, dans vos chambres. Ou si vous repeignez, mettez-la avec un beau pinceau sur vos murs. Il dit comme ça, Jean de la Croix, « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Alors ici, il ne s'agit pas du salut, mais la valeur de notre vie, ce sera l'amour. Ce ne sera pas « Oui, non, j'ai fait des grands débats, j'ai toujours eu raison. » L'amour de notre prochain. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. En conclusion, cette piété authentique, cette piété véritable, en fait, on pourrait la résumer pour le chrétien mature. Et on pourrait dire, en fait, le chrétien mature, c'est quoi cette caractéristique qu'il y a dans cette piété authentique? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? Ben, le chrétien mature, il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est Jésus qui a dit « L'heure vient, elle est déjà là » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est un chrétien qui, en fait, n'est plus dans ces formes infantiles de la tradition, de l'apparence, du jugement, et qui veut, et qui par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, veut vivre une adoration en esprit et en vérité, dans laquelle on a enlevé la carapace, les faux semblants, et on veut entrer dans une foi authentique devant Dieu, en esprit et en vérité. C'est-à-dire Dieu est esprit, c'est sa nature, et donc il adore Dieu en esprit. Et quand on dit en esprit, c'est dans la plus profonde intimité de son être. Pas juste dans l'apparence, mais vraiment dans l'intimité de son être, dans l'intimité de son esprit. C'est une adoration qui n'est pas liée à des temps, à des circonstances, à des endroits. C'est pas « je suis à l'église, ouh, yaya, il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas que je… » Non, il devient une offrande. Il devient une offrande partout, en tout temps, en tout lieu. La véritable adoration, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Ceci, cette piété authentique, elle n'est possible que par le Saint-Esprit qui agit en nous. Sinon, c'est de la morale. Vous savez que le verset de… de Jacques qu'on a lu, le dernier verset, il y a des versets dans le Coran qui sont presque les mêmes. Donc il y a un verset dans le Coran qui dit presque la même chose que celui de Jacques qu'on a lu. La vraie religion, c'est pas de prier, c'est d'aimer son prochain. Donc c'est pas juste de la morale, sinon ça reviendrait à la même chose que de simplement obéir à une loi. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la transformation intérieure de l'Esprit de Dieu que nous pouvons enlever ces faux semblants et plus petit à petit entrer dans une adoration qui soit authentique. L'adoration de toute notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos gestes, par fermer un endroit, des attitudes, une relation à l'autre qui soit aussi une adoration. Une adoration qui n'est pas superficielle, qui n'est pas ritualiste, qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas intellectuelle ou qui n'est pas sentimentale, mais qui nous implique tout entier, tout entier. C'est ça que le Seigneur nous appelle à être, des chrétiens qui adorent en esprit et en vérité, et qui vraiment vivent une relation avec Dieu véritable, dans laquelle on s'est débarrassé de toutes ces choses-là. Toutes ces formes infantiles de la foi, ces formes traditionnalistes de la foi, pour entrer dans une vérité, dans une authenticité. Amen. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Te disons merci parce que ta parole, ce n'est jamais pour nous faire mal, ce n'est jamais pour nous blesser, ce n'est jamais pour nous accabler, nous culpabiliser. Ta parole veut nous relever, veut nous encourager, veut nous conduire, nous guider. Merci pour ta parole qui est dans l'Écriture. Merci parce qu'elle ne dépend pas d'un humain, mais que c'est toi qui la dispense dans nos cœurs par ton esprit. Seigneur, nous voulons te prier, nous te prions pour chacun, sachant qu'il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à être une église où se trouvent des chrétiens qui vivent une piété authentique. Vraiment, une piété de la relation avec toi, une piété de l'amour, une piété de cette adoration tout entière, libérée des faux semblants, libérée de la supériorité, libérée de l'hypocrisie. Seigneur, aide-nous. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Que ton esprit vienne à notre secours, qu'il nous donne ta force, qu'il nous donne ton aide, qu'il nous remplisse et qu'il nous dirige sur la voie de l'authenticité. Merci Père pour ton amour envers nous. Amen.